Est-ce qu'il manque des élèves là chez vous, dans votre groupe? Ah, ils sont pas arrivés. Et chez vous? Qui est la responsable du groupe là? Hein, c'est toi? Il en manque? Alors ça y est, vous avez vos livres ouverts? Bien, alors nous allons étudier ce matin, j'espère, trois sujets précis que vous allez noter. J'espère qu'on va arriver à les boucler. C'est d'une part, alors on va attendre qu'il soit rentré. C'est un bus ou vous arrivez seul? Hein? Non, mais vous arrivez comment? Seul? Donc. Alors, premièrement, nous allons étudier le thème d'identité le plus important que la Torah nous enseigne dans le temps des 10 générations qu'il y a entre le déluge et le commencement de l'histoire d'Israël avec l'histoire d'Abraham. Il y a 10 générations depuis le premier homme jusqu'à Noir, ensuite 10 générations depuis Noir jusqu'à Abraham. Alors nous avons étudié un certain nombre de thèmes d'identité dans la première partie, les 10 premières générations, en particulier la relation du frère au frère. Et en fin de compte, nous avons vu que la sanction qui frappe l'humanité par le déluge était la sanction à ce qui s'était passé déjà à la 2e génération de l'histoire de l'humanité, lorsque Caïn a tué Abel, qu'il y a eu toute une série de sursis jusqu'à ce que la société humaine arrive à résoudre ce problème de la relation des frères entre eux. En fin de compte, il y a échec, il y a saturation de violence, et le déluge annule cette première forme de la civilisation humaine. Ça, c'est la première partie des 10 premières générations. Dans les 10 autres premières générations, la 2e période de 10 générations, qui va de Noir à Abraham, il n'y a pas encore, sinon, disons, nous allons voir ça par la suite, sinon sous forme de traces, de préfiguration. Écoute, la prochaine fois que tu viens en retard, ne me parle pas de thé. Ne rentre pas. Désolé, tu vas sortir. Je ne peux pas faire de cours quand on est en retard. Bon, tu n'étais pas en retard?
Non.
Ah, tu étais avant. Ben, j'ai eu tort. Et on ne répond pas comme ça. Tu vas sortir. Sors. Alors, je reprends la définition du deuxième groupe de génération. Le principal problème qui se pose, ça va être la différenciation de l'humanité en différents peuples, qu'on appelle en hébreu la Pelaga. Vous allez noter cela. P, Lamed, Gimel, He. La Pelaga. La dispersion de l'humanité en différentes nations. Alors je reprends ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons pas encore d'allusion à l'identité d'Israël, sinon sous forme de préfiguration, de traces, qui va par la suite se développer à partir de l'histoire d'Abraham dans l'identité hébraïque. Par conséquent, cette préfiguration, c'est dans l'identité de l'ancêtre des Hébreux qui s'appelle Aéver, et ce sera le 3e sujet que je vais toucher tout à l'heure. Mais dans le 1er sujet, ce que nous allons étudier, c'est la différenciation de l'universel humain en différentes nations, en différents peuples. Alors ça, c'est un sujet important, ce sera le 1er que nous étudierons. Le 2e, c'est la caractéristique de l'incapacité de l'humanité dans cette 2e période de l'histoire, selon le récit biblique, à résoudre ce problème de la rivalité des différentes identités humaines. Alors je reprends. Premièrement, la dispersion de l'humanité en différentes nations, ça s'appelle en hébreu la Pelaga. Deuxièmement, l'incapacité de résoudre le problème de la rivalité des sociétés entre elles, et va nous apparaître la notion des empires, qui est une notion très importante dans la tradition hébraïque du récit de l'histoire, les malchouyot, nous verrons tout cela en détail. Et le premier empire qui va apparaître, c'est l'empire de Babel, d'où va procéder la famille d'Abraham, qui va être à l'origine de l'histoire d'Israël. Le 3e sujet, c'est, j'espère qu'on y arrivera, c'est l'identité hébraïque, on va commencer à l'étudier avec le fondateur de cette identité qui s'appelle Ahéver. Ce qu'il faut que vous reteniez dès le début, c'est que c'est bien plus ancien qu'Abraham. Ahéver va apparaître comme un des descendants de Shem et un ancêtre d'Abraham. Alors là, on étudiera un midrash qu'on vous a distribué tout à l'heure. Alors, je prends le premier sujet. Vous allez lire, je vais lire avec vous le premier verset du chapitre 11. Vayehi, ouvre un petit peu ici. Vayehi, kol haaret safa echad, suivez sur le livre. Et la terre était tout entière, langue une. Je reprends l'expression, safa, c'est une langue. Vous avez un autre mot en hébreu qui veut dire la langue ? La chaune. Quelle est la différence ? Qui peut expliquer ce qu'est la différence ? C'est pas difficile en hébreu. Quand est-ce qu'on emploie le mot de la chaune ? Quand est-ce qu'on emploie le mot de safa ? Un seul à la fois.
La chaune, c'est la langue humaine ?
C'est-à-dire ?
C'est la langue de l'homme
Non, 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 c'est déjà très changé de sens. Quand tu dis la langue matérielle, tu veux dire quoi? Ah. Alors dis ça en français simple. L'organe qui s'appelle la langue. Okay. La shonara, c'est déjà un autre sens. Et safa?
Safa, c'est la langue ou pas?
C'est-à-dire?
Le langage.
Le langage. D'Afrika, pas du pays. Répondez toujours à la question précise. Tu vas voir d'ailleurs que c'est faux la deuxième partie. C'est pas la langue du pays. C'est d'Afrika la chaune, la langue du pays. Alors, premièrement, la chaune, le sens fondamental, c'est l'organe, la langue qui permet de parler. Mais la langue ne permet pas seulement de parler. La chaune, en tant qu'organe, elle permet aussi de manger, de déglutir, de respirer. Mais une des fonctions de la langue, c'est de permettre la parole. Elle n'est pas la seule. Tandis que safa, on va l'utiliser pour dire le langage. Le langage, c'est-à-dire ce qui est un thème extrêmement important à étudier pour lui-même. Le langage est quelque chose d'extrêmement mystérieux dans la réalité du monde, parce que c'est une réalité d'ordre matériel. Les sons que j'émets lorsque je parle, c'est des modifications, des vibrations de l'atmosphère, de l'éther plus exactement, et ça véhicule un sens, une signification. Et vous voyez, la modification matérielle, l'onde vibratoire, c'est une modification de la matière, et pourtant, c'est le, en hébreu on dit le keli, le véhicule d'une signification qui est d'ordre spirituel. Au point de départ, entre ma pensée et les mots que j'emploie, il y a une transformation du sens en son, et au point d'arrivée, il y a de nouveau une transformation du son en sens, et c'est vraiment une réalité qui demande à être étudiée pour elle-même. J'emploie un terme que j'emploie pas très souvent, mais c'est vraiment une réalité mystérieuse. Le comment il y a passage, influence de la matière sur l'esprit, de l'esprit sur la matière, c'est un problème très difficile. Je vous le signale en passant. Mais il est bien évident que c'est dans le langage que cela apparaît de la manière la plus centrale. Au point que la définition de l'homme, d'après la tradition de la Bible, ce n'est pas tellement, comme on le dit en culture générale, l'être pensant, je dirai pourquoi tout à l'heure, mais c'est l'être parlant. Comme, pour ceux qui savent, comment dit-on en hébreu, la définition de l'homme, le vivant parlant ? Non. Le vivant parlant, Hay Amdaber. Vous avez les différents niveaux de l'être, on étudiera ça une autre fois. Et ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il est capable de parole dans le sens du langage. C'est-à-dire une signification qui est véhiculée à travers des sons, mais entre le son, qui est une réalité matérielle, et la signification, le sens, qui est une réalité spirituelle, il n'y a pas de rapport. Enfin, il n'y a pas de possibilité de comprendre le rapport. Je ne vous donnerai pas trop de termes techniques pour ce problème-là. Retenez que c'est un problème très important. C'est le problème du lien entre le corps et l'esprit. Du lien entre le corps et l'esprit. Et c'est dans le langage que cela apparaît. Et donc, safa, c'est le mot qu'on va garder pour dire le langage comme communication. C'est clair ? Donc, maintenant, ceci dit, quel est l'autre sens en hébreu du mot safa ? La lèvre. Oui, de la même manière que la chaune, la langue, va avoir aussi un sens abstrait de langage. On dit aussi lachon pour parler du langage. Par exemple, qui peut me donner une expression en hébreu? On emploie le terme de lachon pour dire les langues humaines. C'est une expression, par exemple, pour dire la langue, le langage qui parle des choses sacrées, le lachon à Kodesh, oui, on emploie le mot de lachon. Donc lachon veut dire aussi langage. Et l'autre expression que j'attendais, c'est shivim lachon. Très bien. Les 70 langages des 70 nations de base, dont d'ailleurs notre texte nous énumère les noms à l'origine. Alors oui, il y a quelque chose de parallèle. De la même manière que lachon, ça veut dire la langue matérielle, ça veut dire aussi un langage. La langue propre à chaque peuple en particulier se dit lachon. Tandis que Safa, c'est la lèvre et c'est le langage dans le sens général. C'est une première approche linguistique du terme. Retenez que les deux mots ont les deux sens, et lachon et Safa. C'est-à-dire Safa, le sens matériel de la lèvre, comme on dit au duel, Sfataim. Et lachon, qui est un mot féminin, se dit au pluriel Lachonot, ça veut dire aussi la langue et le langage. Ceci pour revenir à notre verset. Vous allez ouvrir un petit peu là-bas. Bien, alors reprenez le verset. Vaïhi, et il arriva, kolares, que toute la terre, Safa Echad, était langue unique. Ça veut dire quoi? Que tout le monde, toute la terre, tous les hommes vivant sur terre, parlaient une langue une. J'ai traduit Echad par unique et j'ai eu tort, garder une. Echad, Achat, Echat au féminin, ça veut dire un, une. Udvarim Ahadim, et des paroles uniques. Attendez, quelqu'un va aller à mon. Qu'est-ce qui connaît mon bureau là? Non, quelqu'un va aller demander à ma secrétaire de venir. Je vais vous chercher un livre. Quelqu'un n'importe où. Ou quelqu'un a peut-être une Bible traduite en français là. Alors lis la traduction en français.
Toute la terre avait une même langue et des mots semblables.
Et des mots semblables. Voilà, c'est ce que je cherchais. Alors, quelle est la difficulté dans cette traduction qu'on vient d'entendre? Vous voyez comment c'est traduit? Safa Echad, la même langue, ou Dvarim Ahadim, des mots semblables. Il y a une difficulté dans cette traduction, c'est laquelle? Non, un seul à la fois. Qui veut répondre? Quelle est la difficulté?
Une langue est composée de certains mots, et quand tout le monde parle une langue, tout le monde emploie les mêmes mots.
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, comment on appelle ça en français? Un pléonasme. En fait, il y a un mot plus précis, c'est un dialèle, mais peu importe. Une sorte de pléonasme. C'est-à-dire, ta vie. Vous avez compris l'explication qu'elle a donnée. La traduction fait dire la même chose aux deux expressions du verset. C'est tout. Si la langue est la même, les mots sont semblables. Alors, qui pourrait essayer de justifier cette traduction-là? Vous avez compris d'abord la difficulté. Ce que je veux mettre en évidence, c'est, une fois de plus, vous avez un exemple, la difficulté extrême de traduire l'hébreu, surtout l'hébreu biblique, en une langue comme le français. La traduction ici semble complètement fausse. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire?
Pour expliquer un peu ce verset.
Non, pas le verset, la traduction. Réponds à ma question. Je vous ai signalé une difficulté dans la question. La question est la suivante. Comment un auteur aussi important que l'auteur de cette traduction peut, tout en sachant ce qu'il fait, et c'est très bien que le lecteur va le comprendre, nous dire quelque chose qui apparaît comme étant une absurdité? Parce que si la langue est une, si la langue est la même, les paroles sont semblables. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Ça y est, c'est clair ma question? Vous avez compris le problème? Qu'est-ce que tu veux dire?
Une hypothèse, parce que dans les mots, dans le sens.
Comment?
Peut-être identifier les identique dans les mots et identique dans le sens.
Mais c'est ce qu'il veut dire, en disant des paroles semblables. Si c'est la même parole, c'est identique. S'il a dit semblable, c'est qu'il pense à la signification. C'est clair ?
C'est ce qu'on peut dire, que les mots sont formés sur les racines, avec trois lettres, que c'est semblable pour tous les mots, pour toutes les racines communes.
Et laquelle ? Non, tu veux dire en réalité que tous les mots ont une racine qui ont trois lettres. C'est la seule source de semblable, mais ce n'est pas les mêmes racines. Vous voyez, vous essayez de réfléchir en dehors de la question. Je vous pose une question très simple. Une minute. Nous avons en hébreu « Safa echat » et ça veut dire « langue une » ou « Dvarim ahadim » et des paroles d'avar. C'est une parole dans ce sens-là. « Ahadim », il faudrait traduire « unique ». Mais on voit que c'est en plein un pléonasme absolu. Alors le traducteur nous propose une hypothèse de traduction. La même langue et des paroles semblables. En général, on explique de cette manière, des paroles semblables, ça voulait dire que la signification des paroles était la même. Mais ça aboutit quand même à une tautologie, enfin, comment je l'ai dit, un pléonasme, c'est-à-dire on répète la même chose sous une autre forme. Qu'est-ce que vous voulez dire, toi ? À peu près pareil. Alors, le secret, c'est que, en fait, ces versets, qui sont difficiles à traduire, sont expliqués dans le Talmud. Et il arrive très souvent que les traducteurs négligent de se renseigner comment les rabbins du Talmud comprenaient l'hébreu. En général, les traducteurs étaient d'une culture, juif ou pas juif d'ailleurs, prenons le cas du, ici c'est la Bible du rabbinat, en plus du rabbinat français, sont de culture française, mais ayant étudié l'hébreu. Tandis que les rabbins du Talmud, l'hébreu c'est leur langue. Alors, il y a une différence de méthode, une différence d'approche dans les traductions. Vous apercevrez très souvent qu'il y a des grandes difficultés à se servir d'une traduction française des textes hébreux. En voilà un exemple. Et là, j'ai vérifié moi-même toutes les sources. Le traducteur, tout simplement, a négligé ce que le Talmud dit. Je vais vous citer la source du Talmud, et vous verrez à quel point c'est tout à fait différent et beaucoup plus simple. Alors voilà ce que dit le Talmud, vous allez prendre la référence. C'est dans le Talmud de Jérusalem, traité de Megillah, chapitre 1, halakha 9. Quand je dis que c'est une référence, c'est pour que tu l'apprennes. Tu connais ça par cœur, toi ? Alors, tu es venu pour étudier ou pour assister à quoi ? Alors, écris. Alors, je répète. Talmud de Jérusalem, Megillah, chapitre 1, halakha 9. Alors, je vous lis ce que dit le texte du Talmud. Had Amar, c'est un enseignement double de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yochanan. L'un dit, chez Hayum et Abrim, Beshivim Lashon, qu'il parlait les 70 langues. Et Had Amar, et l'autre dit, chez Hayum et Abrim, Bilson Yechido Shel Olam, Bilson Akodesh, qu'il parlait de la langue de l'unique du monde, la langue des choses saintes. C'est ce que je voulais déjà expliquer tout à l'heure. Quand il a dit la Shona Kodesh, il y a une précision que vous allez d'abord apprendre en hébreu. En général, on traduit la Shona Kodesh en français par la langue sainte. La traduction est fausse. Qui peut expliquer quelle est la traduction exacte de la Shona Kodesh en hébreu ? Ceux qui connaissent l'hébreu. La langue de la sainteté. C'est-à-dire la langue qui traite des choses de la sainteté. La langue qui traite des choses qui sont saintes. Comment dirait-on la langue sainte ? Très bien. Alors oui, même quand on dit Eretz HaKodesh et qu'on traduit la terre sainte, on fait la même erreur. Et c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dedans, ça nous prendrait trop de temps. Faites bien attention de traduire toujours très exactement. Alors voilà ce que le Talmud enseigne. Et j'ai sous les yeux le commentaire de Torah Tmima, qui est un commentaire très important, qui commente la manière dont le Talmud ou le Midrash traduit les versets. L'explication est très simple. C'est-à-dire, on avait la situation que l'ensemble des hommes, premièrement, parlaient la même langue, c'est-à-dire le Lashon HaKodesh, ce qui va disparaître par la suite, mais que chaque peuple avait son propre langage. Donc, simultanément, l'humanité parlait la langue du Lashon HaKodesh commune à tous, et chaque peuple, son Lashon à lui, les 70 langues. Est-ce que c'est clair ? Je vais vous donner tout de suite un exemple qui va vous permettre d'identifier cela. Prenez un pays comme la France. En France, la langue officielle, c'est le français. Or, en fait, cette langue officielle, le français, c'est une langue littéraire qui était à l'origine le patois d'une toute petite province de France qui s'appelle l'Île-de-France, dans la région parisienne. Et il y a énormément d'autres patois en France, d'autres langages français qui ne sont pas le français. Alors les Français parlent tous la langue unique de France qui est le français. Mais en plus, chaque province, chaque culture, chaque folklore a son langage propre. Par exemple, les Occitans parlent l'Occitan, les Bretons parlent le Breton, les Alsaciens parlent l'Alsacien. Imaginez que le français disparaisse, alors il en résultera comme conséquence que les Français ne se comprennent plus entre eux. Pourquoi ? Pas parce que magiquement ils se mettent à parler des langues différentes, parce qu'il ne leur reste que les langues différentes qu'ils ont de chacune de leurs provinces. Est-ce que c'est clair ? Et tout le monde a bien compris ? Eh bien, c'est ça qui s'est passé à l'échelle de l'universel humain et que nous dit ce verset. C'est le récit de la confusion des langues dans l'épisode de la tour de Babel. Alors, on reprend les choses au commencement. Voilà comment ça commence, ce récit. L'humanité parlait tous la même langue. Et puis voilà que la langue unique, cette même langue, a disparu à la suite de la révolte contre le principe d'unité. C'est ce que je vous ajoute à l'avance. Cette langue unique ayant disparu, il n'est resté que les 70 langages. Et c'est la raison pour laquelle les hommes ne se sont plus compris l'un par rapport à l'autre. Je vous rappelle maintenant comment on a l'habitude de lire ce texte et vous verrez la différence. Comment on a l'habitude de lire ce texte, et justement à cause de cette difficulté de départ, de cette difficulté de traduction, on le lit comme si la Torah nous avait enseigné que l'humanité parlait la même langue et que subitement, magiquement, les hommes se sont mis à parler des langues différentes. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Je répète, pour que ce soit bien clair, il y avait et la langue une et les langages particuliers. La langue une ayant disparu, il ne restera que les langages particuliers, d'où l'incapacité des hommes de se comprendre entre eux, de société à société. Est-ce que c'est clair ? Et c'est vrai d'ailleurs à l'échelle individuelle, dans les dimensions auxquelles vous avez fait allusion. Parce que chaque individu, même lorsqu'il emploie la même langue qu'un autre, a ses propres significations. Et parfois, il arrive que, alors qu'on emploie les mêmes mots, on ne se comprend pas, parce qu'il n'y a pas derrière les mêmes mots les mêmes significations pour chacun. Est-ce que c'est bien clair ? Alors voilà donc ce que dit le verset. Le problème qui va se poser à nous est un problème très important. Je voudrais essayer dans la première demi-heure qu'on arrive à le boucler. C'est le problème de l'universel dans l'humanité. Lorsqu'on emploie cette catégorie, l'universel, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire qu'il y a une identité humaine, mais c'est plus important au niveau de la culture. Il y a une culture humaine, une dignité humaine, identique pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Or, dans la réalité historique, je dirais dans la réalité de l'histoire, dont le véhicule est la géographie d'ailleurs, les hommes ont tous une certaine personnalité culturelle, chacune différente l'une de l'autre. Et pourtant, il y a une notion, un idéal de l'universel humain. Je reprends ça sous une autre forme. Nous sommes habitués, surtout depuis les grandes idées de la Révolution française, en tout cas en Occident, à parler de l'universel humain. Mais dans la réalité concrète, les sociétés humaines sont-elles de personnalités strictement différentes l'une de l'autre ? Donc l'universel humain est, dans notre civilisation contemporaine, un idéal. C'est une réalité d'idéal. Je posais la question de manière très simple. Et qui pourrait donner l'exemple d'un type humain qui représente l'universel humain ? Chacun qu'on désigne un type humain historique, concret dans l'existence, on désigne quelqu'un de défini par des coordonnées culturelles, intellectuelles, philosophiques, sociales, historiques très précises. C'est un Français ou un Italien ou un Roumain ou un Américain. Et lorsqu'on parle de l'homme en général, l'échelle universelle, il faut tout de suite découvrir qu'on parle de l'idée de l'homme, d'un idéal de l'homme universel, mais dans la réalité, dans l'existence, il y a des hommes concrets, tous différents les uns des autres, qui se groupent en nations. Et d'une façon générale, d'où l'importance de ce texte, le critère le plus évident d'une unité nationale, c'est sa langue. De l'unité d'une nation, c'est son langage. En tout cas, d'un point de vue théorique, d'un point de vue idéal. Si on prend par exemple le cas d'Israël, dans son histoire, surtout l'histoire du peuple juif, on s'aperçoit qu'il y a là apparemment une anomalie, puisque les Juifs n'avaient pas du tout de langue commune, et pourtant ils formaient un peuple spécifique. Effectivement, les Juifs, sauf de rares érudits qui parlaient l'hébreu et se communiquaient en hébreu, les Juifs parlaient tous des langues judéo quelque chose d'autre, judéo-allemand, judéo-espagnol, judéo-arabe, judéo tout ce que vous voudrez. Ils parlaient les langues du pays où ils vivaient, et cependant ils formaient une entité nationale, ne serait-ce que théoriquement, en principe, bien que n'ayant pas les attributs de l'unité nationale, qui sont essentiellement la langue et le territoire, et les institutions. Il y a trois attributs fondamentaux qui différencient un peuple d'une nation. Un peuple est appelé nation lorsqu'on peut désigner ces trois ces trois dimensions communes, la langue, les institutions et le territoire. Et quelle est la différence en hébreu entre peuple et nation? Donnez-moi les mots en hébreu, le peuple et la nation. Am, c'est quoi? Le peuple et Uma, la nation. Très bien. Il y a des nuances aussi dans le vocabulaire, mais grosso modo, c'est cela. Lorsqu'on dit Am, on parle du peuple, et lorsqu'on dit Uma, on parle de la nation. Et oui, la différence entre le peuple et la nation, c'est le même ensemble, c'est les mêmes hommes, mais le peuple, c'est cet ensemble des hommes sans ces attributs de la nation, c'est-à-dire la langue, le territoire et les institutions. Quelle est l'étymologie du mot Am en hébreu ? Et ça veut dire avec. C'est-à-dire, je dirais de tous ceux qui vivent ensemble qu'ils forment un âme. Ils sont les uns avec les autres. Alors que la nation, vous rattachez Ouma à quel mot en hébreu? J'ai entendu M. Ça veut dire la mère. Mais il y a une souche ethnique qui fait une nation. Le peuple, c'est tous ceux qui vivent ensemble les uns avec les autres. Vous voyez, le découpage des catégories intellectuelles et verbales en hébreu est différent du français. Alors, on revient au sujet. L'humanité avait, en ce temps-là, d'après ce verset, une dimension d'universel réel. Cette chose-là, cette dimension de l'universel humain s'est perdue à la tour de Babel, et le résultat, c'est la diaspora des nations. Je vais revenir sur ce terme, mais d'abord, retenez bien cela. J'essaie de vous simplifier cette donnée, pour que ce soit bien retenu dans votre mémoire. Nous sommes familiers à l'idée de l'universel humain, mais on ne se rend pas compte que l'universel humain est devenu une notion abstraite, parce qu'à un certain moment de l'histoire de l'humanité, cet universel humain a disparu. Il n'a pas disparu complètement, il est resté sous forme d'idéal, sous forme de rêve, sous forme d'exigence. L'humanité sent plus ou moins confusément, et on le sent à travers toutes les cultures, que tant qu'on n'arrivera pas à restaurer l'universel humain, les problèmes de la société humaine n'auront pas de solution. L'état de l'humanité, c'est un état de guerre permanente. L'universel, c'est un idéal qui est en recherche et qu'on n'arrive jamais à réaliser. Je vous donnerai énormément d'exemples historiques pour éclaircir ça, mais d'avoir une coordonnée pour organiser toute votre mémoire à ce sujet. Je reprends cette définition pour que ce soit bien clair. Nous sommes habitués, surtout depuis les idéaux de la Révolution française, en tout cas dans ce secteur de la culture humaine, à l'idée de l'universel humain. Mais il faut d'abord découvrir que l'universel humain a disparu. Et on va apprendre comment le récit biblique nous montre cette disparition. Mais comment on s'en rend compte? Tout simplement parce qu'au niveau de l'existence concrète, l'homme universel, l'homme qui est tout l'homme et que l'homme, n'existe pas dans l'existence. Il est au niveau des notions d'idéal. Je vous donne tout petit exemple, puisque vous avez vécu dans l'histoire de France, vous savez très bien à quel point énormément de descendants de peuples colonisés par les Français, de façon extrêmement naïve, ont participé à une culture qui se définissait comme nos ancêtres les Gaulois. Si je vous donne un exemple, Pendant la guerre, j'étais dans un régiment où il y avait des Sénégalais et des Indochinois. Vous n'imaginez pas avec quelle naïveté, avec quel patriotisme naïf, mais je cherche un terme, avec quelle évidence, ils vous recitaient ça, nos ancêtres les Gaulois. Alors qu'il s'agissait de Sénégalais ou d'Indochinois. Là, ça paraît exotique. Mais vous savez, le nombre de petits juifs qui n'ont rien à voir avec les Gaulois, qui ont répété ça en toute innocence, nos ancêtres les Gaulois, vous le savez d'ailleurs. Alors, vous voyez, en réalité, le français a une carte d'identité très précise, très concrète. Et chaque peuple a sa personnalité très concrète. Et puis, cependant, tous les hommes ont une idée de l'universel humain. Mais où est l'universel humain?